Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast du club Hygiène. Gros nettoyage de printemps en préparation. Si vous avez prévu un bon dépoussiérage de votre matos Apple, maintenant que l'hiver est presque terminé, allez, on peut se dire ça, on a tout préparé pour vous aider dans cette tâche, mine de rien, pas si anecdotique. En deuxième partie d'émission, on va replonger dans le monde merveilleux et un peu bizarre de l'intelligence artificielle avec Stéphane. Il nous présentera OpenAI, l'entreprise par laquelle tout est arrivé. Nous sommes le lundi 6 mars, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Le printemps arrive, c'est le bon moment pour sortir les lingettes et les chiffonnettes. Vous l'avez peut-être remarqué, ces dernières semaines, on vous a proposé plusieurs articles pour bien nettoyer vos différents appareils Apple. On a commencé avec l'iPhone, ça s'est poursuivi avec les AirPods Pro. Et ce week-end, Anthony vous a proposé ses bons conseils pour bichonner un MacBook. Je vous ai mis les liens vers ces articles dans la description du podcast. Ça peut paraître idiot, mais nettoyer vos iPhones et vos Macs, ça ne sert pas qu'à leur donner un coup de frais. C'est aussi très utile pour assurer une bonne longévité à des produits qui sont souvent de sérieux investissements. Par exemple, il suffit souvent d'un coup de brosse délicat sur les grilles des écouteurs des AirPods pour retrouver un bon son. Alors un bon conseil, allez jeter un œil sur ces papiers et faites-en bon usage. Vos appareils Apple vous remercieront. Apple n'a pas inventé le concept de boutique d'application, mais c'est vrai que l'App Store a largement popularisé le concept. Apple elle-même en a mis partout un peu à tort et à travers, avec un succès plus ou moins relatif en fonction des plateformes. Vous vous rappelez de la boutique de l'application Message ? Non, hein. Au-delà d'Apple, tout le monde s'y est mis, et les constructeurs automobiles aussi. Sans surprise, Tesla est passé devant tout le monde, mais le principe va essaimer un peu partout ailleurs. Google est bien avancé sur ce terrain avec sa plateforme Android Automotive, qui est adoptée par de plus en plus de constructeurs. Volkswagen s'est lancé sur ce créneau en annonçant une boutique d'applications qui va s'intégrer sur les écrans des voitures de ses différentes marques. C'est Audi qui va inaugurer cet App Store au mois de juillet, puis elle va s'étendre progressivement aux autres marques du groupe comme Porsche ou tout simplement Volkswagen. Le constructeur a bien fait les choses vu que cette boutique pourra compter dès son lancement sur tout un tas d'applications pas mal populaires comme Spotify, Amazon Music, des réseaux sociaux, des apps d'itinéraire et même des navigateurs web et des jeux. Il faut bien s'occuper à la station de recharge. C'est ce qui s'appelle une bonne nouvelle dans une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Meta a décidé de baisser franchement le prix de ses casques de réalité virtuelle. Le Quest Pro, qui est sorti en octobre dernier, va être vendu à 999$. C'est mine de rien 500$ de moins qu'à son lancement. Et pour le casque Quest 2, la version de 256Go va coûter 429$ au lieu de 500$. C'est quasiment le même prix qu'avant la précédente augmentation de l'été dernier, de 100$. La mauvaise nouvelle, eh bien, elle est pour Meta. La baisse du prix du Quest Pro, c'est le signe que le produit a été mal lancé et qu'il n'a pas généré beaucoup d'intérêt de la part de la clientèle visée, ici les professionnels et les entreprises. Il n'est même pas certain qu'en passant sous les 1000$, le casque intéresse davantage ses clients. Quant au Quest 2, ce n'est pas forcément une très bonne affaire non plus, vu que son successeur est prévu pour cet automne. Le Quest 3 devrait être beaucoup plus puissant pour un prix à peine plus élevé. En tout cas, ces histoires de prix en baisse pourraient bien être un avertissement pour Apple. Le futur casque de réalité mixte qui devrait sortir cette année coûterait en effet très très cher, on parle de 3000$ voire plus. Manifestement, les utilisateurs ne sont pas prêts à mettre autant pour se plonger dans ces mondes virtuels. OpenAI, on en parle beaucoup depuis le lancement de ChatGPT en novembre dernier. Le chatbot conversationnel, et c'est pas facile à dire, a fait l'effet d'une bombe avec ses réponses détaillées qui peuvent d'ailleurs être complètement fausses, mais ça c'est un autre débat. Avec Stéphane, aujourd'hui, on va justement parler de cette entreprise qui attire des milliards et des milliards de dollars d'investissement. Salut Stéphane.
Salut Mickaël, salut à tous.
OpenAI a commencé à se faire connaître avec DALL-E puis avec ChatGPT l'an dernier auprès du grand public, mais cette entreprise a été créée bien avant avec un mot d'ordre assez ambitieux.
Oui, en effet, donc la startup a fait beaucoup parler d'elle depuis l'année dernière avec ChatGPT et DALL-E un petit peu avant, mais elle a été fondée en fin 2015 par des spécialistes en intelligence artificielle et puis des investisseurs renommés. Parmi eux, il y a Elon Musk. Je pense que vous connaissez un petit peu. Ouais. Et puis, il y a également Sam Altman, qui est devenu le patron d'OpenAI. Et puis, donc, tu l'as dit, l'objectif d'OpenAI est pour le moins ambitieux. Donc, sa mission, c'est, je cite, « de faire en sorte que l'intelligence artificielle bénéficie à l'humanité tout entière ». rien que ça.
D'accord.
En fait, OpenAI veut créer une intelligence artificielle qui soit super forte et qui surpasse même l'intelligence humaine. Et pas plus tard que la semaine dernière, la startup a publié une sorte de planning du développement de l'intelligence artificielle. Et par certains aspects, on a l'impression que c'est un peu de la science-fiction. Par exemple, ouais. Tu vois Skynet dans Terminator.
Oui, je vois bien, ouais.
Et ben, OpenAI veut éviter ça. Voilà, donc on espère qu'ils vont réussir à éviter ça.
La grande innovation d'OpenAI, c'est un modèle de langage très performant qui est au cœur des différents services lancés par l'entreprise.
Ouais, donc depuis 2015, les chercheurs d'OpenAI explorent différentes facettes de l'intelligence artificielle. Mais en effet, leur grande avancée, c'est un grand modèle de langage hyper performant. Donc pour ça, la startup a rassemblé plusieurs ingrédients. Donc il y a une architecture innovante qui vient des recherches de Google, ça s'appelle les Transformers. Et puis il y a des quantités phénoménales de données et puis une puissance de calcul qui est elle aussi phénoménale pour entraîner ce modèle, comme on dit dans le jargon. Et donc quand vous mélangez tous ces ingrédients, et ben vous obtenez GPT. Donc c'est une technologie qui est capable de comprendre le langage naturel et puis de produire du texte. Et puis il se trouve que GPT, c'est une technologie super polyvalente. Et donc c'est au cœur de ChatGPT, qu'on connaît maintenant tous, mais aussi du générateur d'images DALL-E, et puis d'autres technologies comme par exemple l'autocomplétion de code Codex, qui est dans GitHub Copilot.
On va rapidement évoquer le modèle économique d'OpenAI qui, au départ, était parti sur quelque chose de très généreux, mais maintenant, il faut gagner de l'argent.
Oui, au début, la mission d'OpenAI, elle n'a pas changé, mais c'est la manière pour y parvenir qui n'est plus du tout la même. Donc la startup a commencé en fait comme une organisation à but non lucratif, et puis elle publiait toutes ses recherches en open source. Il présentait ça comme une façon d'assurer que le bien-être de l'humanité passerait avant celui des actionnaires et des investisseurs. Ouais. Et puis finalement, au bout de quelques années, ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même pas mal d'argent pour mener leurs recherches, parce que pour faire tourner l'entraînement, ça demande beaucoup de puissance de calcul. Ouais. Alors à ce moment-là, autour de 2018-2019, ils ont créé une société commerciale. Et puis mis des barrières autour de certaines technologies pour mieux les commercialiser. Donc c'est le cas de GPT-3, le moteur de ChatGPT. Et puis on voit maintenant qu'il y a même un abonnement à ChatGPT à $20 par mois pour avoir un accès prioritaire. Et donc d'après Reuters, OpenAI prévoit de faire un chiffre d'affaires de $200 millions cette année et puis un milliard l'année prochaine. Donc c'est toujours une ONG qui chapeaute le tout. Mais maintenant, c'est clairement une logique de rentabilité qui guide la start-up. Ouais.
Alors, on parle beaucoup de ChatGPT, de son intégration dans Bing, mais l'intelligence artificielle d'OpenAI, ça ne se limite pas à des bots de conversation. En fait, cette technologie, elle est présente dans pas mal de logiciels pour toutes sortes de fonctions qui peuvent même être plus pratiques que de taper la discute avec un robot, en fait.
Oui, tout à fait. Ouais. On voit pas mal d'applications intégrées GPT sous la forme d'assistant. Par exemple, dans le bloc-notes Notion, GPT permet de résumer des textes ou de changer le ton d'un texte. Il y a également le gestionnaire de tâches Todoist qui s'en sert d'une manière encore un peu plus spécialisée pour remplir automatiquement des sous-tâches. En fait, comme c'est un outil très malléable, on peut s'en servir dans plein de contextes différents. Puis là, on parle de GPT, mais OpenAI a également d'autres technologies. Je pense à Whisper, qui est un moteur de transcription de fichiers audio en texte. Donc un développeur a créé une application qui permet de s'en servir très simplement sur Mac. Et puis il y a aussi par exemple Clip, qui est un moteur de classification d'images. Donc il y a tout un éventail de technologies qu'OpenAI met à disposition des développeurs.
Alors comment est-ce que ça se passe pour les développeurs? Est-ce qu'ils peuvent utiliser la technologie d'OpenAI comme ça? Est-ce que c'est facile à intégrer? Surtout, qu'est-ce que ça coûte?
Alors ça dépend des technos. En fait, tu as deux grands cas de figure. D'un côté, tu as les technos, tout ce qui est lié à GPT-3. Donc ça, c'est très facile à intégrer parce que ça passe par le biais d'une API, mais c'est payant. Donc le prix dépend des usages. Si c'est juste pour faire une petite app rien que pour toi, ça ne sera pas très cher, juste quelques dollars. Mais si c'est pour intégrer dans une app qui est distribuée dans l'App Store, avec plusieurs milliers, voire millions d'utilisateurs, ça peut revenir cher. C'est d'ailleurs pour ça que certains développeurs font payer un supplément pour utiliser leur assistant qui est basé sur GPT. Mmh. Et puis de l'autre côté, tu as les technos open source d'OpenAI, comme Whisper et Clip. Et alors là, c'est gratuit. Par contre, ça demande plus de travail d'intégration. Donc pour créer un moteur de recherche de photos basé sur Clip, un ingénieur nous a expliqué qu'il avait dû faire beaucoup d'efforts parce que au départ, la techno n'est pas du tout pensée pour le mobile en fait. Mais bon, ce qu'il y a de bien avec l'open source, c'est que tu peux trouver d'autres projets existants pour te faciliter le travail.
Ouais.
Et puis, il y a eu une nouveauté la semaine dernière en matière d'intégration. Donc maintenant, OpenAI laisse le choix pour Whisper. Alors, soit tu te bases donc, sur le projet open source, et c'est gratuit, mais un peu compliqué, pour résumer.
Ouais.
Soit tu peux maintenant passer par une API qui est payante.
Apple, on va en parler, donne l'impression d'être en retard, ou c'est le sentiment qui domine en tout cas, en ce qui concerne les modèles de langage comme GPT, mais on peut quand même penser qu'Apple est sur le coup, et qu'on devrait même avoir des nouvelles à la WWDC par exemple.
Ah, c'est vrai qu'en fait, Apple a plein de super techno d'intelligence artificielle. Par exemple, texte en direct, c'est basé en partie là-dessus.
Oui.
Mais c'est vrai qu'elle n'a pas d'équivalent à GPT. Et comme GPT, c'est le truc à la mode en ce moment, c'est vrai qu'Apple apparaît en retard dans ce domaine. D'autant que le succès de ChatGPT a poussé Google et Meta à sortir du bois. On voit que là, ils sont tous les deux en train de faire des annonces pour dire « Oh oui, vous inquiétez pas, nous aussi, on a des technos similaires, on va faire plein de super produits avec. » Et Apple, elle, n'annonce rien pour le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va arriver. Apple est tout à fait capable de sortir un équivalent à GPT un jour.
Oui.
On voit dans les recherches en intelligence artificielle qu'Apple s'intéresse à des technos, aux mêmes technos qu'OpenAI, par exemple les transformers, la compréhension du langage naturel, la génération d'images. Tout ça, c'est, on peut le voir sur... ils ont un blog où ils montrent leurs recherches en cours.
Ouais.
Et puis, il y a des optimisations qui ont été faites aussi dans macOS dernièrement pour Stable Diffusion. Donc ça, c'est un concurrent open source à DALL-E.
Ouais.
Donc Apple peut clairement jouer un rôle dans ce domaine. Mais à mon avis, il ne faut pas trop qu'elle tarde, parce que sinon on aura tous remplacé Siri par ChatGPT.
C'est déjà fait. Eh bien, merci d'avoir plongé dans l'univers d'OpenAI. Je pense qu'on risque bien de se reparler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Salut Stéphane.
Salut Mickaël, à bientôt.
Je rappelle que vous retrouverez sur le Club Hygiène tes deux articles sur OpenAI. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin et on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.